profession philosophe. Mais être philosophe, est-ce un métier ou est-ce une vocation? Comment se fabriquent les concepts? Et quel est le rôle du philosophe dans la cité? Mon invité aujourd'hui a découvert les mathématiques avant de découvrir la philosophie. Il a écrit sur Gödel, Hilbert, Cavaillès, pour interroger les liens entre philosophie et science, et il est même parti explorer les rêves de Norbert Wiener, l'inventeur de la cybernétique. Mais au gré de son travail, il a rencontré des zombies, des vampires et des machines de toutes sortes, ce qui l'a conduit à proposer un essai de cosmologie et une métaphysique des bords de mer. À moins que ce ne soit l'inverse. Bref, vous l'aurez compris, mon invité ce matin ne s'interdit rien, et même s'il travaille beaucoup, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est trouver de bonnes raisons de perdre son temps.
Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour, et j'espère vivre vieux. Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour, et j'espère de vivre vieux.
Bonjour Pierre Kasounogas.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes chez vous, évidemment. Je suis en studio et je suis ravie de passer l'heure qui suit en votre compagnie. Qu'est-ce qui est trop dur? C'est de travailler ou c'est de faire de la philosophie?
Les deux sont difficiles. Disons que dans l'idée de perdre son temps, il y a justement l'effort de se détacher d'une activité au moins qui a un but. Ce qui est aussi le cas de la philosophie, pour essayer de regagner un temps libre, un temps justement qui passe sans but et dans lequel on peut ou ne rien trouver du tout, ou trouver d'autres buts, d'ouvrir d'autres horizons.
Et je prends mon violon et j'attrape mon archer, et je joue ma vieille valse pour faire le monde danser. Vous connaissez mes chers amis, la vie est bien, bien, bien trop courte pour se faire des soucis. Alors ce soir, allons danser.
Et est-ce que vous pensez, comme Julien Clerc, que travailler, d'une certaine façon, parfois, c'est perdre son temps dans le mauvais sens du terme? C'est passer du temps à faire quelque chose qui nous empêche de faire autre chose, en l'occurrence, aller danser?
Oui, bien sûr. Ça, dans le travail, il y a une aliénation, et même dans certaines parts du métier de philosophe, il y a une aliénation qui nous sépare d'avec nous-mêmes et nous empêche de faire des choses qui seraient à la fois plus enrichissantes. Mais ce qu'il y a dans la chanson de Julien Clerc, c'est aussi il montre bien comme c'est difficile de ne pas travailler, de ne pas se faire de soucis, par exemple, pour reprendre le dernier couplet, et qu'il y a dans cette idée de rupture, de ne pas travailler, c'est un véritable effort et d'une certaine façon un effort impossible. Que comment faire pour ne pas travailler, pour ne pas voler, pour ne pas demander la charité, et en plus pour ne pas se faire de soucis. Il y a une sorte d'impossibilité dans cet effort pour regagner un temps perdu. Et c'est ce que je trouve très beau, en fait, dans cette chanson. C'est ce à la fois la visée d'une vie, de cette vie libre, et en même temps son impossibilité. Il y a mes deux versions préférées, hein, de la même chanson, c'est celle de Zacharie Richard, qui lui a un espèce de côté désespéré. Et Julien Clerc, il y a un côté de l'effort qu'on sent même dans la dans sa voix, ouais. qu'il s'efforce de ne de viser à ce temps libre et c'est un effort toujours renouvelé.
Mais vous croyez pas que le travail c'est aussi une manière de se libérer de beaucoup de choses, c'est pas forcément une aliénation, c'est le premier mot que vous avez employé pour définir le travail philosophique, mais c'est pas aussi parfois un travail de libération?
Alors en ce qui concerne le travail philosophique, le travail du philosophe dans le travail de quelqu'un qui est professeur de philosophie, il y a toute une série de charges qui relèvent du travail au sens propre. Après effectivement dans il y a aussi une autre part dans le fait d'écrire qui est une libération sous plusieurs aspects. C'est d'abord se dégager aussi des contingences de la vie quotidienne, de ses soucis, des soucis extérieurs qu'on peut avoir ou de ses propres tourments. Et c'est quelque chose de très fort. Quand on écrit, on est quand même dans ce qu'on écrit. Et si on arrive à se concentrer, c'est une libération. Et puis, ensuite, évidemment, il y a la question de la libération politique, disons, dans la cité, pour reprendre le titre d'une partie de l'émission, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Mais effectivement, dans l'écriture, oui, ça, dans l'écriture, il y a une libération. Mais le métier de philosophe, ensuite, de professeur de philosophie, ce n'est pas toujours écrire, et il y a une part de travail.
Comment vous définissez la philosophie ?
Alors pour moi la philosophie, j'ai une définition. Pour moi je reprends le mot de Merleau-Ponty qu'il reprend lui-même à Husserl, mais en lui donnant un sens un peu différent. La philosophie c'est porter l'expérience à l'expression. C'est-à-dire c'est d'abord décrire l'expérience, décrire la vie au sens où pas au sens de la vie du vivant, mais au sens où on dit c'est la vie. C'est décrire la vie d'une façon telle que elle peut se conceptualiser et se rendre aussi transparente que possible à elle-même. Elle n'est jamais transparente, mais en l'exprimant, on va justement essayer de l'amener à cette transparence. Et donc, mais la première strate de la philosophie, c'est vraiment une description. Et en cela, pour moi, la philosophie est très proche de la littérature ou du poème en prose. Il s'agit d'abord de décrire quelque chose.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est exactement ce que fait la littérature. Qu'est-ce qui distingue les deux ? C'est la conceptualisation qui est le travail que fait la philosophie et en quoi consiste-t-elle ?
Alors, je suis philosophe ou je me veux philosophe, donc je veux bien essayer de définir la philosophie, mais d'une certaine façon, pas la littérature. Et je dirais que voilà, la littérature, il y a effectivement dans certaines œuvres littéraires ce même effort de décrire. On pourrait penser à Ponge, par exemple, d'une certaine façon, tout roman, ou Proust, ou tout roman passe par cet effort de description d'une expérience, d'un élément de cette expérience, d'un élément, ça peut être une chose, mais aussi le temps, enfin, qui n'est pas une chose. Mais il y a aussi une littérature qui a d'autres buts, qui a des buts de distraire, qui a des buts d'emmener dans une histoire et qui passe à un moment par cette description, mais qui ne s'y tient pas, où il y a une littérature qui a pour but des jeux. Donc, d'une certaine façon, j'allais dire un peu bêtement, la littérature ne m'intéresse pas. Évidemment, elle m'intéresse, mais je ne veux pas la définir. Et si je rapproche la philosophie et la littérature, c'est pour définir la philosophie en laissant à la littérature tous les buts qu'elle veut. Juste ce qui m'intéresse, c'est d'attacher la philosophie à cette description et à cette description qui, pour moi, doit toujours être lue comme une fiction.
Comme une fiction ?
Absolument, comme une fiction. Par exemple, c'est ce qui distingue la philosophie du journalisme, si vous voulez, ou de la sociologie. À savoir, si je lis, pour prendre un exemple de journalisme degré zéro, enfin, ou degré minimal, si je lis le bulletin météorologique, je lis qu'il fait gris, je regarde dehors s'il fait gris. C'est pas comme ça qu'on lit la philosophie. Lorsque Descartes, dans les méditations métaphysiques, nous explique qu'il est en train d'écrire en robe de chambre près du feu avec un morceau de cire à côté de lui, on se moque de savoir si c'est vrai au sens du bulletin météorologique. Ce qu'on veut, c'est qu'il présente une description d'une expérience qui fonctionne et qui va pouvoir servir de base à cette conceptualisation. Ce qu'on veut, c'est que la description, elle fonctionne comme fiction, au même titre que quand Proust nous raconte son enfance, on se moque de savoir s'il a vraiment vécu cette enfance. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il présente un enfant ou un personnage en un certain sens, et en un sens assez compliqué en fait, possible, et qui va se prêter au travail qu'il veut faire, qu'il s'apprête à faire sur l'expérience. Et peut-être que oui, peut-être que non, mais à la limite, la sociologie, peut-être qu'elle a le mode de vérité du bulletin météorologique, à savoir ce que dit le sociologue, ça doit être vrai, peut-être, ou on pourrait argumenter que ça doit être vrai au sens du bulletin météorologique. Mais ce n'est pas le cas de la philosophie. Ouais. S'il y a une vérité en philosophie, c'est une vérité d'un tout autre ordre, et à mon avis, et pour moi, en fait, cette question de la vérité en philosophie, elle est pas importante. Ce qui importe, c'est cet attachement au possible.
Oui, mais alors comment la philosophie peut-elle être à la fois cet outil de description du monde qui vise à le rendre le plus transparent possible, et de l'autre, ce qui tient la vérité entendue comme correspondance entre ce qui est dit et ce qui est, comme secondaire? Vous voyez ce que je veux dire? Si la philosophie décrit ce qui est, mais qu'en même temps elle peut imaginer ce qui est, elle est ambivalente.
Eh bien, justement, la philosophie ne se rapporte au réel, pour moi, que de façon médiate. C'est-à-dire, la philosophie va décrire une expérience possible, va la conceptualiser, elle va pouvoir décrire une multitude d'expériences possibles, et en travaillant sur ce possible, isoler ce qui est le plus essentiel dans notre expérience. Et c'est par ce biais qu'elle revient au monde réel. C'est-à-dire que dans cet inventaire, parce qu'il n'est pas question de faire de totaliser comme ça tous les possibles, mais dans cette analyse des possibles, elle va isoler des caractères qu'on ne peut pas imaginer autrement et qui donc représentent des essences, si vous voulez, du monde réel. Et cela dit, d'une certaine façon, c'est la perspective que j'ai essayé de mettre en place depuis, à partir de mon livre « Mon zombie et moi ». Et récemment, en fait, donc, j'ai écrit ce livre « Virusland » où il s'agit du coup de parler du monde réel. Et c'était une question pour moi, avec cette espèce de dispositif par la fiction auquel je tiens beaucoup, de savoir justement comment parler réellement du monde réel, pour le dire comme ça, c'est-à-dire comment, alors que dans le schéma que je défends, la philosophie, elle s'attache au possible et seulement par un retour indirect à la réalité. Au début de la pandémie et du confinement, j'étais frappé par une sorte de sidération et je voulais parler de la réalité et en parler directement. Et en même temps, sans tomber moi-même dans le journalisme ou la sociologie, ce dont du reste j'aurais été incapable, comment parler en philosophe de la réalité? Et avec le schéma que j'ai essayé de mettre en place, c'était vraiment une question.
Jusqu'à ma classe de seconde, je n'étais pas du tout porté sur les choses de l'intellect et de l'esprit. Je me rappelle que je jouais beaucoup au football et que c'était ça ce qui m'intéressait. C'est pas tellement moi qui n'aimais pas les mathématiques, c'est les mathématiques qui ne m'aimaient pas. Enfin, je n'avais pas le choix, en quelque sorte. J'étais très mauvais en mathématiques et je les ai abandonnées pour passer mon bachot de latin et grec. Puis alors, quand je suis entré en philosophie l'année suivante, ça a été absolument immédiat. Dès la deuxième ou troisième leçon, je me suis rendu compte que la manière de prendre les questions, le genre de curiosité que représente la philosophie était une fois pour toutes ce qui m'intéressait.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, profession philosophe, aujourd'hui en compagnie du philosophe Pierre Cassou-Noguès. À la différence de Maurice Merleau-Ponty que vous venez d'entendre, c'était une archive du 1er mai 1959. Pierre Cassou-Noguès, vous avez d'abord fait des études de mathématiques, je crois. Alors comment avez-vous rencontré la philosophie et quel rôle Merleau-Ponty a-t-il joué pour vous ?
Alors oui, donc j'ai commencé par faire des études de mathématiques un peu en fait par défaut, c'est-à-dire que j'étais assez bon en mathématiques, je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie et souvent quand on est plutôt bon en mathématiques et qu'on voilà qu'on n'a pas d'idée de bien définie du futur, on est poussé à poursuivre en mathématiques, voilà. Et ensuite donc un peu par jeu en fait et un peu par hasard je me suis inscrit en philosophie et là j'ai été très frappé, donc c'était en licence, et là j'ai été très frappé par la philosophie. Et bon, en particulier, c'était les cours de Renaud Barbaras. Et ce qui me frappait, c'était qu'il puisse y avoir une rationalité, disons, c'est-à-dire un quelque chose dans ce discours qui ne se défaisait pas, qui était contraignant et qui pourtant était tout à fait différent de la rationalité, disons, je ne veux pas dire formalisme, de la rationalité des mathématiques. C'est-à-dire que j'avais fait des mathématiques et qu'effectivement, en mathématiques, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et d'une certaine façon, ce n'est pas facile de savoir pourquoi en mathématiques, on ne peut pas dire n'importe quoi finalement. Mais j'avais l'impression de ressentir, à défaut de pouvoir le définir, de ressentir ce qui était contraignant en mathématiques. Le fait que, par exemple, en mathématiques, si, d'une certaine façon, si on est absolument sûr d'avoir raison, personne pourra nous dire qu'on a tort. Et en philosophie, je retrouvais une autre contrainte, mais qui passait dans un discours complètement différent, qui passait par des ressorts entièrement différents. Et c'est ça qui vraiment me fascinait, qu'on puisse parler tout autrement et pourtant qu'il y ait une contrainte analogue. Et du coup, qu'on puisse aussi parler de la vie. Et il y avait cet autre aspect que les mathématiques, bah, j'avais l'impression, c'est comme ça qu'on étudie les mathématiques et c'est peut-être nécessaire à l'étude des mathématiques, j'avais l'impression d'une sorte de jeu, que, comme j'aurais joué aux cartes, un jeu de cartes très compliqué et peut-être plus drôle en fait qu'un jeu de cartes, mais quand même un jeu qui laissait de côté entièrement ce que je pouvais vivre par ailleurs. Et avec la philosophie, il y avait à la fois la possibilité de parler de la vie et ce mystère d'une toute autre rationalité.
Et est-ce que vous arrivez à définir ce qu'est ce type de rationalité? On essaie de le définir depuis le début de l'émission et j'essaie de le comprendre aussi en regardant même votre bibliographie, puisque là vous venez de raconter votre rencontre avec la philosophie, le lien avec les sciences. Vous avez d'abord beaucoup écrit d'ailleurs sur les philosophes des sciences et sur les scientifiques eux-mêmes, et puis à mesure que votre travail avance, vous vous détachez de cette dimension scientifique. Ce type de rationalité à l'œuvre dans la philosophie, quel est-il vraiment?
Alors, non, je ne saurais pas le définir, je ne saurais pas le définir du tout, et c'est, disons, des deux aspects que j'ai distingués, l'idée d'une rationalité autre et l'idée de parler de l'expérience, c'est plus, en fait, vers ce deuxième aspect vers lequel je suis allé. Donc j'ai effectivement au départ beaucoup écrit sur les philosophes des sciences, enfin Cavaillès, et puis ensuite sur des scientifiques, et beaucoup sur des scientifiques pour interroger en fait le rapport entre leur science, pour leur logique en fait, ou leur mathématiques, et sinon leur vie, au moins les fictions qu'ils y entretenaient. Et parce que les fictions aussi, elles s'expriment dans des textes qu'on peut retrouver. Et à partir de là, à travers ces études autour des mathématiciens, ce qui m'a intéressé et c'est vraiment là que s'est fait le basculement, c'est le rapport, disons, entre la fiction et ce qu'on veut et ce qu'on doit quand même considérer comme une forme de rationalité. Mmh. Comment est-ce que la fiction, qui repose sur des ressorts immanents, peut se lier à un discours qu'on veut dire rationnel. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que une fiction, il n'y a jamais de fiction d'idées. C'est-à-dire que ce qui fait qu'un texte de fiction, il fonctionne, qu'on s'y intéresse, qu'on est pris dedans, ce ne sont pas les idées qui sont dans ce texte. C'est la façon dont c'est écrit, la façon dont l'histoire s'exprime, se déploie, quelque chose de très obscur et encore une fois, qu'on ne peut pas définir indépendamment de ce texte lui-même.
Allez-y.
Et d'une certaine façon, pour moi, c'est une espèce de métaphore, mais pour moi, la fiction en philosophie, elle est comme le dessin géométrique, la figure pour le géomètre de Kant. C'est-à-dire, pour Kant, l'histoire est bien connue. Comment est-ce qu'on démontre qu'un triangle, là, c'est la somme des angles d'un triangle est égale à un angle plat? Eh bien, pour Kant, on ne peut pas raisonner sur les concepts. Il faut tracer une figure et on le voit, en fait, sur la figure. Bon. Et pour moi, donc, la fiction, elle joue le rôle de cette figure. C'est-à-dire que le philosophe, s'il essaye de réfléchir à des concepts dans l'abstraction, les concepts, ils tournent en rond, ils sont vides, ça ne marche pas. Et que le philosophe, il va commencer par arrimer ses concepts dans une description de l'expérience, et c'est dans qui est une fiction, et c'est dans cette fiction que se mettent en place les liens entre ces concepts, qui les remplit et qui va pouvoir en faire quelque chose. Mais comme la figure de Kant qui repose sur cette intuition de l'espace en fait assez mystérieuse, eh bien la fiction du philosophe, elle repose sur des ressorts immanents qui ne sont pas ses concepts et auxquels il faut qu'il se soumette.
On va prendre un exemple, si vous voulez bien, Pierre Castounogas. De la science à la fiction, il y a la science-fiction, et le maître de la science-fiction, c'est Philippe K. Dick. Peut-être reconnu la bande originale, le générique de la série Le Maître du Haut Château, chanté par Jeanette Olson. Donc la série date de 2015. Et c'est une adaptation du roman de Philippe K. Dick, Le Maître du Haut Château, qui lui date de 1962. Philippe K. Dick qui a joué le rôle de révélateur pour vous, Pierre Castounogas, c'est ça?
Oui, enfin, ça a été effectivement la lecture de Philippe K. Dick a été très importante pour moi. Je ne lisais pas du tout de science-fiction quand j'étais adolescent, j'ai découvert beaucoup plus tard. Mais j'ai trouvé chez Philippe K. Dick, comme chez Borges par exemple, une reprise des questions philosophiques ou de certaines questions philosophiques, mais aussi une analyse de l'imaginaire dans un registre autre que celui de la philosophie. Et voilà, Philippe K. Dick vraiment a été très important. Une pas tellement le maître du château, mais des romans comme celui qui est maintenant connu sous le titre Blade Runner en français, Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ou Ubik. Dans ces romans, Philippe K. Dick reprend vraiment des problématiques philosophiques de façon explicite et qu'il traite par la fiction. Dans « Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ?», le personnage principal s'appelle Descartes, donc avec très proche de Descartes. Et son problème, c'est de distinguer les machines et les humains. C'est vraiment un problème cartésien. Et ce problème cartésien, et ce personnage, en un sens, de Descartes, Philippe K. Dick le reprend dans la fiction et réussit par la fiction à lui donner un autre tour. Et il y avait ce rapport aux questions philosophiques reprises dans la fiction. Aussi, ce qui était pour moi très important personnellement chez Philippe K. Dick, c'est aussi que Philippe K. Dick, donc voilà, il écrivait ses romans en s'enfermant dans un camping-car au fond de son jardin et en ne sortant pas de son camping-car avant d'avoir écrit le roman.
Donc, vous faites pareil fermé
avec des biscuits. Non, je ne fais pas pareil. Mais non, je ne fais pas du tout pareil. Et ça l'a quand même, d'un point de vue personnel, ça n'a pas été une grande réussite. Mais puisqu'il s'enfermait aussi avec beaucoup de drogue.
Oui.
Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il écrit ses romans très vite et il les écrit mal. Et pour moi, c'était donc il y a des répétitions, les phrases elles sont mal foutues, et pourtant ça ne change rien au fait que l'histoire elle fonctionne et elle fonctionne comme histoire et comme philosophie. Et c'était pour moi une grande libération de voir que on n'avait pas en fait à se soucier de la façon dont on écrit, que on pouvait, il n'y avait pas besoin de faire des belles phrases, que ça pouvait marcher quand même. Et pour moi, c'était vraiment très important.
Donc, il vous autorisait à mal écrire, c'est ça?
Exactement, à pas me soucier je venais d'une, j'ai fait des études très classiques avec une formation comme ça, et le fait de découvrir qu'on pouvait se libérer de l'idée de la belle phrase, de le découvrir concrètement, c'était oui très important.
Alors quand on s'approche de votre cœur ou de votre tête, sans surprise, on entend ceci. La bande originale du film Dawn of the Dead, les zombies sur France Culture, les chemins de la philosophie. Pierre Kasounogas, comment êtes-vous passé de Maurice Merleau-Ponty, pardon, à La Nuit des Morts Vivants?
Donc le cheminement a été un peu long et il est passé par Gödel. Donc Gödel, logicien donc d'origine autrichienne et finalement austro-hongroise et finalement américain. Et qui est surtout connu pour le théorème d'incomplétude. Mais Gödel avait donc à partir du moment où il émigre aux États-Unis, Gödel commence à développer une philosophie bizarre et une philosophie dans laquelle il n'y a pas de mort-vivant exactement, pas de zombies comme dans le film de Romero, mais des anges, des démons. Toute une série d'êtres et de situations bizarres. Et j'ai eu une bourse pour aller aux États-Unis étudier les archives de Gödel et dans lequel cette philosophie bizarre s'exprimait sur des pages et des pages et des pages. C'était en fait l'essentiel de l'activité de Gödel à partir du moment où il était aux États-Unis. Et ce qui m'a intéressé, c'était qu'on voyait clairement un rapport entre cette philosophie bizarre et son travail logique. Et ces thèses bizarres, elles pouvaient orienter son travail logique. Et en particulier, la référence à des êtres rationnels non humains. Et donc, c'était mon livre Les démons de Gödel. Et à partir de là, voilà, donc... Pour Gödel, c'était une religion systématique qu'il voulait mettre en place. Mais il n'y a pas de doute que les êtres ou les situations dont parle Gödel même si lui veut en faire une religion, ce sont en fait des êtres ou des situations de la science-fiction de son époque. Les êtres rationnels non humains, en fait, dans la science-fiction des années 50, ce sont les extraterrestres, il y en a beaucoup. Gödel fait en physique toute une théorie du temps, mais en fait, une théorie du temps qui est fondée sur la possibilité d'un voyage dans le temps. Et le voyage dans le temps, c'est un thème de science-fiction. Donc en fait, Gödel y voit une religion, mais c'est vraiment quelque chose de la science-fiction. Et du coup, y avait deux problèmes. C'était d'une certaine façon de savoir si on pouvait systématiser ou analyser comme une sorte de structure la fonction de ces êtres de science-fiction. Et c'est comme ça où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la science-fiction. Et j'ai écrit sur les vampires, effectivement, les zombies, qui sont des êtres différents. Et puis, il y avait surtout cette idée de voir comment, en philosophie, on pouvait aussi utiliser des personnages de science-fiction. Et donc, j'en ai deux que je préfère. Hein.
Ouais.
Pour moi, il y a l'homme invisible, qui a été un exemple très important, et effectivement le zombie. Et donc, l'homme invisible, il y a plusieurs versions, mais enfin, finalement, l'homme invisible est aussi vieux que la philosophie, puisqu'il figure déjà, il y a Gisès et Platon, dans la République. L'homme invisible, il voit, mais on ne le voit pas. Il est transparent. Et puis ensuite, le roman de H.G. Wells, évidemment, L'homme invisible. Et est-ce qu'on pourrait imaginer un homme intangible dans le même sens ? C'est-à-dire qui pourrait toucher sans lui-même être touché. Qu'est-ce qui se passerait quand on essaierait si j'essaye de serrer la main de cet homme intangible ?
L'homme intangible serait visible ou aussi invisible ?
Non, pardon. L'homme intangible pourrait toucher sans lui-même être touché.
Mais on le verrait.
Oui, on le verrait.
Voilà,
oui.
C'est ça.
Voilà. Mais si on essaye de serrer la main de l'homme intangible, eh bien, on sentirait sa main dans la sienne. Enfin, je sentirais sa main dans la mienne. Non, je ne sentirais pas.
Voilà.
Je me suis mélangé. Voilà. Mais je ne sentirais pas. Lui sentirait ma main dans la sienne, mais moi, je ne sentirais pas sa main. Et est-ce que c'est possible ? Et en fait, il n'y a pas d'homme intangible dans ce sens dans la science-fiction. Il y a des fantômes qu'on ne peut pas sentir, mais ils ne peuvent pas non plus toucher, et ils deviennent tangibles dans la mesure même où ils peuvent toucher. Et pour moi, l'homme invisible, il ne s'agit pas en fait d'une question d'imagination. Cette différence entre l'homme invisible et cet être intangible qui n'est pas possible, ce n'est pas une question d'imagination, c'est vraiment une différence entre la vue et le toucher. Que le toucher a une propriété que n'a pas la vision, qu'il y a une sorte de réflexivité du toucher. Et qu'en fait, c'est pour la mettre en place, cette différence, il faut en passer par l'homme invisible, et que donc l'homme invisible doit être un personnage de la philosophie, doit être un exemple légitime pour la philosophie. Qu'il y a à partir de Husserl, chez Merleau-Ponty, et puis Derrida ou Jean-Luc Nancy, il y a toute une réflexion et une discussion très compliquée et intéressante, mais sur la différence entre la vue et le toucher et leur réflexivité, dans quelle mesure il faut être visible pour voir, tangible pour toucher, qu'est-ce que ça veut dire ? Et l'homme invisible, c'est un élément, il doit être un élément dans cette question, que l'homme invisible, il manifeste une spécificité de la vision par rapport au toucher. Mmh. Et cette idée donc de la philosophie comme fiction, elle vise cette idée que la philosophie passe par la fiction et que toute fiction qui fonctionne, à laquelle on adhère, fournit des exemples légitimes pour la philosophie, qu'elle ouvre en fait le champ de possible auquel est attachée la philosophie. Voilà, c'est un schéma qui vise à faire de l'homme invisible un élément susceptible de marquer la différence entre la vue et le toucher.
Oui.
Il n'y a pas d'homme invisible dans la réalité. L'homme invisible est sans doute même une absurdité au regard de la science, c'est-à-dire c'est comme dire 0 égale 1, c'est absurde au regard de la science, et pourtant c'est un exemple légitime à la philosophie. Et cela veut dire donc que la philosophie, elle s'attache à des exemples beaucoup plus larges que ceux du monde réel. Elle s'attache à un possible qui même dépasse celui de la science, mais et dont la consistance se met en place dans la fiction.
Oui, c'est la thèse que vous développez dans votre livre « Mon zombie et moi, la philosophie comme fiction ». Avant qu'on continue notre exploration, un mot peut-être sur le zombie ?
Oui, alors, justement, donc, dans ce livre, mon but est en fait d'essayer de passer en revue, du coup, les modifications que l'on peut imaginer faire subir à son corps. C'est-à-dire, quels sont mes corps possibles et ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire, je peux imaginer avoir un corps transparent, de façon à voir sans moi-même être vu, comme si les regards passaient à travers moi. Mais je ne peux pas imaginer la même chose dans le registre du toucher. Il n'y a pas en fait de transparence dans le registre touché. De la même façon, je peux imaginer avoir un corps fait de deux parties, comme si ma tête était posée sur la table et en quelque sorte téléguider le reste de mon corps dans l'appartement. Je peux imaginer, par exemple, finalement, à l'intérieur de mon corps, j'ai des sensations. Par exemple, je peux avoir mal à la jambe, mal aux dents, je peux avoir la sensation agréable de bien digérer. Et puis, à l'extérieur de mon corps, il y a des couleurs, des textures, mais il n'y a pas de telles sensations. Est-ce que je pourrais imaginer avoir mal comme la douleur du mal de dents, mais dans la pomme qui se trouve un peu plus loin sur la table ? À quoi ressemblerait notre expérience ? Imaginer, pour moi, ce n'est pas imaginer dans sa tête, c'est raconter une histoire dans laquelle on puisse entraîner le lecteur. Donc, comment faire varier son corps et quelles sont les limites à cette variation ? Et l'idée, c'est justement qu'il y a des limites, qu'il y a des impossibilités qu'on ne peut pas imaginer et qui manifestent certaines propriétés essentielles du corps, des propriétés sans lesquelles on ne peut pas imaginer un corps de narrateur.
Oui, c'est ça.
Et ce dans le livre Mon zombie et moi, ce zombie, c'est justement cette subjectivité, en fait, cette subjectivité qui est toujours incarnée, parce que pour raconter une histoire, bon gré mal gré, même si ce n'est pas avec du papier et un stylo, il faut qu'elle se passe au lecteur. Donc, il faut que le narrateur soit d'une certaine façon incarné. Et donc, le zombie, c'est, dans le livre, c'est ce personnage qui va se plier à ses multiples métamorphoses.
Oui, c'est ça.
Et moi, c'est moi.
Ouais, affirmer que l'imagination a des limites, ça, pour le coup, on l'avait déjà lu avant et Kant l'a bien dit. Mais en revanche, tirer comme conclusion de cette limitation de l'imagination et des réflexions sur les propriétés de notre corps, c'est vraiment la valeur ajoutée de cet ouvrage qui nous conduit encore ailleurs. On va se retrouver dans un ascenseur bloqué avec un cadavre qui sort au dernier moment. C'est Woody Allen.
Where? Ah, oh mon Dieu,
attends, c'est rien, écoute, tout va bien.
Pourquoi on s'arrête là ? Pourquoi on s'arrête ?
Détends-toi, hein, là.
Mais ne me dis pas de me détendre, je suis mondialement connu comme claustrophobe.
Tout hein va bien,
arrête,
tout
quelque
va
part.
Ouh,
j'aime pas ça.
Écoute,
je parcours un champ immense, je vois une énorme prairie, je vois un étalon, je suis un étalon.
Larry, porte-moi et on va sortir de là, on va y arriver.
Je ne jamais sortir par là.
Non,
ça s'ouvrira pas. C'est un trompe-l'œil, c'est pas fermé ça.
Larry,
ça ne s'ouvre jamais.
Je croise mes mains et sous les mains. D'accord. Allez, tu es prêt. Attends,
une seconde, attends. Oh, Seigneur, tu devrais renoncer à tes desserts français, là.
Oui, attends une minute, attends.
Allons, partons, je vois ma vie défiler devant mes yeux. Et le pire, c'est que je conduis toujours une voiture d'occasion.
Voilà, mais pourquoi est-ce qu'il le sert tellement, ce stupide truc?
Oh, j'ai peur.
Oh, mon Dieu.
Oh, mon Dieu. Oh, c'est elle.
Alors c'est là qu'il l'avait caché.
Oh, Seigneur, claustrophobie et cadavre, le gros lot du névrosé.
Pouvons-nous être sérieux lorsque nous parlons de phobie ? Non, nous ne pouvons pas, parce que les phobies sont absurdes et parce qu'elles se rapportent à des objets définis, à des situations singulières. Donc nous devons raconter des histoires. Peut-être vaut-il mieux se détacher de la philosophie et essayer quelque chose de différent, une autre façon d'aborder notre expérience, vidéo, son, Image. Ce texte-là, on le trouve en ligne sur un site que vous avez créé, Pierre Kasounoguès, sur la question des phobies. Phobic postcards. Pourquoi cet intérêt pour les phobies ?
Oui, alors je vous remercie de parler de cette, ce travail qui m'a tenu beaucoup à cœur. Donc, pourquoi parler des phobies ? Eh bien, justement, parce que les philosophes n'en parlent pas. À savoir que cette idée d'utiliser la fiction en philosophie, elle doit permettre aussi d'aborder des domaines que la tradition philosophique, en fait, refoule. Et il y en a toute une série, et en particulier la phobie. Que les philosophes, il y a la peur, mais les philosophes sont censés surmonter leur peur, et la seule peur à laquelle ils cèdent dans la tradition philosophique, c'est l'angoisse. L'angoisse heideggerienne, un sentiment noble, d'une certaine façon, et c'est la peur de rien. Donc, dans la tradition philosophique, il y a deux grandes lignes. Il y a la ligne cartésienne où on doit être capable de surmonter sa peur, et il y a une ligne heideggerienne où on peut seulement n'avoir peur de rien, c'est l'angoisse. Et ce qui est déjà Pascal oppose à, il y a un texte, une pensée de Pascal qui propose au plus grand philosophe du monde, mais en fait c'est Descartes, de monter sur une planche au-dessus du vide. Et l'idée de Pascal, c'est que le philosophe peut avoir toutes les bonnes résolutions qu'il veut, la meilleure philosophie du monde, sur cette planche au-dessus du vide, même si la planche est assez large, le philosophe tremblera s'il doit trembler. Et qu'il y a quelque chose dans la phobie qui échappe à la meilleure philosophie du monde. C'est-à-dire que la phobie, qu'est-ce que c'est ? C'est une peur pour un objet qui est reconnu inoffensif. Voilà, quand j'ai peur d'un danger réel, j'ai peur, je peux adopter différentes attitudes devant cette peur, mais il y a un danger réel. Dans la phobie, je sais que l'araignée qui me fait trembler n'est rien, qu'elle ne peut pas me faire de mal, et pourtant, je suis terrorisé. Et dans cette phobie, donc, il y a quelque chose qui semble échapper à ce qu'on voudrait être la philosophie, et en fait, que les philosophes veulent ignorer. Et donc, ce qui m'intéressait d'abord, c'était de parler de la phobie, justement, d'utiliser la fiction pour aborder ce domaine qui fait problème à la tradition philosophique. Et justement, dans ce travail, il y a plusieurs autres questions. Pour moi, il y a aussi celle des modes d'expression de la philosophie, à savoir, je défends que la philosophie doit passer par la fiction, mais fiction en quel sens et quelles sont les limites de cette extension à ce qu'est habituellement supposé être la philosophie. Et il y avait deux problèmes en particulier. Le premier, c'est le comique. Il est clair que le comique, c'est Woody Allen, c'est le meilleur exemple. Le comique, c'est une façon de défaire ses peurs. C'est une façon de défaire la peur, et c'est ce que fait constamment Woody Allen, en fait.
Qui, lui, pour le coup, a peur tout le temps. Enfin, le personnage joué par Woody Allen est quelqu'un non seulement d'angoissé, mais de terrifié partout.
De terrifier partout, mais comme il se rend ridicule par sa peur, il minimise aussi l'objet de sa peur, et donc il nous rassure qu'on peut être claustrophobe. Quand on le voit dans l'ascenseur, on est rassuré, et si on est soi-même coincé dans un ascenseur, il suffit d'imaginer Woody Allen.
Oui, enfin, il se retrouve face à un cadavre ensuite.
Voilà, mais quand même, le comique, c'est défaire la peur, et Woody Allen joue beaucoup là-dessus. Mais je vais revenir dessus pour faire une parenthèse. Il y a une nouvelle de Washington Irving qui présente un personnage qui est en fait gouverneur de New York. Et ce personnage, quand on lui raconte une blague, il réfléchit, il dit « j'ai pas compris ». On la lui explique, il réfléchit, puis il dit « mais c'était pas très drôle ». C'est-à-dire, et ce personnage, est-ce que ça n'est pas le philosophe, en fait ?
Qui manque d'humour ?
Est-ce que dans la philosophie, il n'y a pas l'exigence qu'on doit toujours pouvoir expliquer ? Je vous dis quelque chose, vous me dites « j'ai pas compris », comme philosophe, est-ce que je ne dois pas pouvoir l'expliquer l'expliquer mieux. Est-ce que, comme exigence minimale de la rationalité philosophique, il n'y a pas au moins le fait qu'on peut toujours expliquer ? Mais alors, justement, la philosophie ne peut pas être drôle. Parce que si je vous fais une plaisanterie et que vous me dites « je n'ai pas compris, est-ce que vous pouvez me l'expliquer ?», ben, elle n'est plus très drôle. Et donc, justement, est-ce que... voilà, une des choses qui m'intéresse dans le comique, c'est à la fois donc, cet effet de anxiolytique, hein, de défaire la peur et en particulier les phobies, que rire de ces phobies, c'est les démonter, et en même temps, ce problème philosophique. Est-ce que la philosophie peut effectivement passer par le comique ou non ?
Oui.
Et que d'une certaine façon, on pourrait dire que dans une, on trouverait chez Freud hein, cette idée que le mot d'esprit, mais disons aussi le comique, c'est une façon de faire passer un message dans une enveloppe fermée. Mmh. Et la philosophie, elle demande à ouvrir l'enveloppe et à voir le message noir sur blanc. Et du coup, bah, c'est plus drôle.
Ouais. Alors, on va bientôt arriver au terme de l'émission. On doit encore aller au bord de la mer. Est-ce qu'on y va maintenant ?
D'accord, allez-y.
Allez, on y va.
Notre pays a subi cette vague de plein fouet. Et en effet, nous sommes dans ce qu'on a souvent appelé cette deuxième vague.
La règle est simple, l'accès aux plages est aujourd'hui interdit. Près de 290 arrêtés ont été pris pour préparer la réouverture des plages. Le virus est toujours là. Nous devons apprendre à vivre avec le virus.
Pierre Cassounogas, vous avez non seulement écrit une métaphysique d'un bord de mer, c'était aux éditions du Cerf en 2016, mais votre dernier livre, Virusland, qui est paru cette année au Seuil, a pour point de départ une chasse aux baigneurs, c'est-à-dire des baigneurs qui se sont fait sanctionner parce que, bravant les interdits énoncés par notamment Monsieur Castaner, on l'a entendu, ils sont quand même allés se baigner. Pourquoi cette obsession avec la mer et les baigneurs ?
Alors, la mer, c'est un peu comme les phobies, c'est un domaine qui échappe à la tradition philosophique, que les philosophes, y compris les philosophes contemporains ou du XXe siècle, parlent beaucoup de la terre. La terre, c'est un thème qui revient dans la philosophie contemporaine et ignorent les bords de mer sur lesquels, comme beaucoup de gens, ils vont passer les vacances. Le meilleur exemple, c'est Merleau-Ponty qui, en vacances en Provence, dans son dernier livre, veut parler de l'eau et choisit l'eau de sa piscine. Qu'est-ce qui, dans les bords de mer, échappe autant à la philosophie? Et c'est ça, dans la métaphysique des bords de mer, c'est ça qui m'intéressait. Effectivement, moi, j'aime beaucoup les bords de mer et la mer. Et le livre Virusland, effectivement, le point de départ, bon, j'ai passé le confinement de façon très privilégiée au bord de la mer. Point de départ, effectivement, c'est une espèce de sidération, en fait, devant le journal télévisé où je vois dans les premiers jours du confinement un nageur qui est arrêté au large. On est sur le bateau de la gendarmerie avec le journaliste. On est très au large, c'est vraiment un champion. Il est intercepté, hissé sur le Zodiac, verbalisé, et la caméra se tourne vers lui et il dit « Oui, je savais que je faisais quelque chose de pas très bien. » Que faisait-il de pas très bien et quel rapport avec la circulation du virus? Que nager comme ça, il devait être à un kilomètre, hein, nager à un kilomètre du bord, il risquait pas ni d'attraper ni de donner le virus. Il entretenait sa santé, ce qui a priori est plutôt bien on fait ce qu'on veut, mais du point de vue sanitaire, pourquoi est-ce qu'il était arrêté? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce qu'il faisait de pas très bien? Et donc, le livre est pour moi, le philosophe, justement, et c'est la question dont on parlait tout à l'heure sur le rapport au monde réel, comme philosophe, il est impossible, à mon avis, de critiquer le confinement de critiquer le confinement et l'utilité du confinement ou des mesures. C'est-à-dire que Il faudrait pour ça être médecin ou sociologue, faire des enquêtes, savoir quelle est l'utilité médicale du confinement. Et comme on n'est pas seulement des corps susceptibles d'être malades, mais aussi des esprits susceptibles d'avoir des troubles et une société susceptible d'avoir ces crises, est-ce que le confinement est utile ou non ? D'une certaine façon, ce sont des questions pour des médecins ou pour des sociologues, pas pour le philosophe. Et le philosophe ne peut rien dire là-dessus. Alors, comment parler, comment analyser cette espèce de sidération qui me venait sans, encore une fois, prendre parti sur l'utilité ou non du confinement. Alors, et le modèle, et puis je disais tout à l'heure, puisque j'ai mis ce schéma en place où je parle d'habitude plutôt d'être fantastique, zombie, homme invisible, et en défendant l'idée que la philosophie est attachée au possible et ne revient sur le monde réel que par le biais de ce possible, comment là parler de ce qui nous arrivait réellement ? Et c'était ces questions auxquelles j'essayais de réfléchir. Donc
et qui ont donné lieu à votre dernier livre.
Voilà, exactement.
Et auquel je renvoie les auditeurs. Il s'appelle Virusland et on le trouve donc. On le trouve chez quel éditeur ? Je crois que je me suis trompé.
Oui, exactement.
Aux éditions du Cerf. Oui, c'est voilà. Donc, je fais bien de le rectifier. Merci beaucoup, Pierre Kasounogas, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci
et d'avoir parlé de votre conception et pratique de la philosophie. On se quitte. On avait commencé avec Julien Clerc, Travailler, c'est trop dur. Je vous propose qu'on se quitte avec Zachary Richard. Travailler, c'est toujours trop dur.
Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Mon et la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on demande comment je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre. Moi je prends mon violon et j'attrape mon archer. Et je joue ma vieille valse pour faire mes amis danser. Vous connaissez mes chers amis, la vie est bien bien trop courte pour se faire des misères. Allons danser ce soir. Travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau. Monde la charité, c'est quelque chose pour papa. Chaque jour, comment je vis, on demande comment je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, travailler c'est trop dur, mais on vous propose d'écouter, comme tous les vendredis, c'est l'instant archive, la philo dans le rétro, une archive que vous ne connaissez sans doute pas, c'est Maurice Merleau-Ponty, on l'a entendu en début de cette émission, là voici une autre archive de lui dans laquelle Jean Amrouche lui demande pourquoi l'homme moderne a l'air moins heureux que l'homme qui précédait l'homme moderne, pourquoi l'homme moderne ne peut pas être content de lui. Voici la réponse de Maurice Merleau-Ponty, c'est une archive qui était initialement diffusée le 15 septembre 1951.
Vous croyez avoir la radio ?
Vous n'aurez vraiment la radio qu'avec un poste moderne.
Le journal Parlé présente Des idées et des hommes, une émission de Jean Amrouche.
Il y a des exemples qui me paraissent de prouver que les hommes d'aujourd'hui ne sont plus et ne peuvent plus être aussi contents d'eux que dans des générations précédentes. Voici à quoi je pense, par exemple. On peut dire que depuis 50 ans, on s'est efforcé par tous les moyens de faire connaître à tout le monde les dessous de toutes les activités. Le côté généralement caché par l'histoire officielle a été très volontiers révélé. On s'est efforcé de toujours découvrir les infrastructures. En particulier, on s'est efforcé de montrer comment les décisions que nous croyons des décisions de la tête sont souvent des décisions liées à toute notre vie instinctive. J'ai parlé longuement justement du freudisme et de son influence qui est évidemment énorme quand on songe à des influences qui s'exercent vraiment sur un grand nombre de gens et en dehors du monde savant, je crois qu'il faut nommer celle-là en premier lieu. Eh bien, des conceptions et des recherches comme celle-là, avec toutes leurs conséquences dans l'histoire littéraire et dans tous les domaines, ont pour résultat de faire que nous ne pouvons plus séparer, pour ainsi dire, ce qu'on appelle le supérieur, et puis d'un autre côté, toute cette vie grouillante qui est par en dessous et que l'on révèle par tous les moyens. Par suite, je ne crois pas qu'aucun homme aujourd'hui puisse jamais considérer une seule de ses actions sans en faire une critique assez aiguë, en se demandant si les motifs nobles qui sont invoqués par lui sont les vrais motifs, en cherchant par au-dessous s'il n'y a pas des motifs moins honorables. Il y a un état de bonne conscience qui me paraît incompatible avec cette lucidité-là. Sartre explique que notre volonté ne rencontre pas à proprement parler de limites dans les choses extérieures, et que tout ce qui peut arriver, c'est qu'elle se heurte à une espèce de coefficient d'adversité, dit-il. Voulant dire par là que, par exemple, même quand nous souffrons extrêmement, il n'y a pas de moment où nous soyons obligés de céder à la douleur, quoique cependant la douleur nous incline à céder, et c'est justement cette force douce, comme il dit ailleurs, de la douleur, que l'on peut appeler dans le cas particulier adversité. Alors, il m'a semblé que l'idée devait être généralisée, et j'ai appelé adversité ce qui s'oppose, en effet, à la réalisation de l'harmonie, de l'accord avec soi-même et avec autrui, mais ce qui s'y oppose sans être un adversaire que l'on puisse précisément nommer. Par exemple, cette notion d'adversité, je crois, n'a pas de place dans l'esprit de ceux qui considèrent la vie humaine comme un combat entre deux postulations simultanées, selon le mot fameux, entre Dieu et Satan. Dans ce cas-là, ce n'est pas à une adversité qu'on a affaire, c'est un adversaire. Il y a un vainqueur qui a un nom, et il y aura un vaincu qui a aussi son nom. Ce que j'ai voulu appeler adversité, c'est cette espèce de mouvement sournois par lequel les choses se dérobent à notre prise, dans tous les ordres de création ou de recherche que l'on puisse citer en exemple. Si je ne nomme pas l'adversaire, je ne le nomme pas parce qu'on ne peut pas le séparer. Des notions analogues se rencontrent dans des modes de pensée antérieurs lorsque la liberté se trouve en présence d'une nécessité. Mais je ne dirais pas que la nécessité est une adversité, puisque comme on l'a expliqué très souvent, elle est aussi le moyen par lequel nous pouvons changer les choses et agir sur elles. Par conséquent, ici, il n'y a pas véritablement affrontement de notre initiative avec quelque chose qui la limite. Et tandis que je me suis servi du mot et de l'idée d'adversité, parce qu'il me semble qu'on ne peut pas séparer nos opérations de liberté de ce fond sur lequel elles s'exercent et qui de temps à autre se dérobe à nos prises.
Merci Maurice Merleau-Ponty et qui sait, à bientôt. Et un immense merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui accomplit un travail incroyable chaque jour depuis chez eux, enfin depuis chez elles, puisque l'équipe est féminine en ce moment, et qui m'aide à préparer et à faire cette émission. Cette émission qui ne serait pas grand-chose sans toute cette équipe que j'ai plaisir à citer chaque jour. Voici leurs noms, donc Clara De Giovanni, Manon Delasselle, Avril Poignant-Le Goff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert. C'est Esther Valencic qui a réalisé cette série d'émissions pour vous cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Ludovic Auger. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série des Chemins de la Philosophie. Après le confinement avec Gaston Bachelard, le confinement avec Simone de Beauvoir, le confinement avec Keith Jarrett, on sera confiné la semaine prochaine avec les philosophes antiques. Faut-il libérer son âme ? Platon s'en charge. Comment réussir son confinement intérieur ? Demandez à Plotin. Comment tenir bon ? Eh bien, les stoïciens vous répondent. Et enfin, si vous perdez votre sang-froid, apprenez à devenir antisocial avec Diogène. C'est le programme de la semaine prochaine. D'ici là, pour réécouter cette émission, téléchargez l'application Radio France qui vous permettra d'écouter les émissions en direct, mais aussi les téléchargements, les podcasts pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. On se retrouve lundi à 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.